y est, il est arrivé, monsieur Christian Anténor à Bazac. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous.
Bah, c'est avec plaisir.
Il est ensemble, on va pouvoir échanger. Donc, n'oubliez pas, chers auditeurs, dès maintenant, si vous avez des interrogations, nous avons déjà donné la thématique pour aujourd'hui. Nous parlerons de risques volcaniques. Numéro de téléphone 0590 83 25 73. Alors, nous avons en face de nous un passionné de volcanologie. C'est monsieur Christian Anténor à Bazac. Avec vous, nous allons faire un point. Nous aurons différentes interrogations. Qu'est-ce qu'un risque, etc., etc. Donc, mais avant d'aller plus loin, d'où vous vient cette passion concernant la volcanologie? Assez particulier quand même comme passion.
Oui, moi, je suis plutôt un scientifique. Donc, je suis un passionné, en fait, des sciences de la Terre en général. Et dès tout petit, j'étais passionné de géographie physique. Et ben, un peu d'histoire aussi, mais surtout la géographie, et ça découlait naturellement vers les sciences de la Terre. En même temps, j'ai fait pas mal d'électronique, de radio, d'informatique, tout ça, et c'est vrai que tout ça, ça peut amener à ce genre de métier.
Et vous voilà au jour de la retraite, à la disposition de...
Oui, la formation pour faire de l'information, de la formation pour tout le monde, parce qu'effectivement, il y a des choses à savoir. Le fait d'habiter en Guadeloupe fait qu'il y a des choses à savoir de façon à ne pas être surpris en cas de problème.
Tout à fait, c'est le cas de le dire, parce que c'est ça aussi l'objectif de l'émission, c'est de faire de la prévention. Avec vous, nous parlerons, comme je disais, de risques volcaniques. Alors, ça va être peut-être basique comme question, mais on la posera quand même. C'est quoi un risque volcanique?
Bah, le risque volcanique, c'est tous les dangers que peut faire courir un volcan à une population. Population qui vit à proximité du volcan, bien entendu. Donc, nous avons ici un volcan actif, qui est en fait dans la catégorie des volcans, qui fait partie des volcans explosifs. Donc c'est un volcan qui est potentiellement dangereux, mais qui a quand même des avantages dans sa dangerosité, c'est-à-dire qu'il ne va pas rentrer en éruption comme ça du jour au lendemain, qui va rester très longtemps à prévenir, il y aura des précurseurs très longtemps avant, et en même temps il n'est pas souvent en éruption, à peine une à deux éruptions par millénaire. Donc ça nous permet de pouvoir vivre au pied d'un volcan explosif sans problème pendant plusieurs générations, et évidemment les générations qui vont subir une éruption volcanique vont être perturbées, ça c'est clair, mais après ça peut se calmer et on peut repartir pour un tour jusqu'aux prochaines éruptions. Quoi.
D'accord. Est-ce que nous sommes concernés en Guadeloupe par notre jeune dame? Elle n'est pas si vieille que ça, vous disiez la dernière fois.
Oui.
Elle n'est pas si vieille
la
comme ça.
Nous sommes évidemment concernés par le risque volcanique, mais quand je dis nous, donc le Sud-Bastère, ce qu'on appelle maintenant l'île de la Bastère, qui est la Guadeloupe proprement dite, le Sud-Bastère est concerné, je veux dire, de manière vitale par le volcan de la Soufrière ou une autre éruption volcanique dans la région. Parce qu'il n'y a pas que le volcan de la Soufrière qui est capable de faire des éruptions, il peut y en avoir d'autres. Et en même temps, il peut y avoir de nouveaux volcans qui sortent, comme ça s'est produit à Montserrat. Oui, à Montserrat, en 1995, on a eu la naissance de nouveaux volcans qui a broyé l'ancien volcan juste à côté de lui, l'ancien dôme, et qui a pris sa place, en fait. Donc c'est la nature, ça fonctionne comme ça. La Soufrière est bien sortie de terre en 1530, eh bien rien n'empêche qu'un nouveau volcan puisse sortir de terre à côté de la Soufrière. Et la zone active, effectivement, ça reste la zone de la région du volcan de la Soufrière, même si le massif est beaucoup plus large que ça. Donc en fait, c'est le Sud-Bastère qui est concerné de manière vitale. Ça veut dire qu'en cas de réveil volcanique et en cas de choses graves, il faudra avoir évacué la région. Moi, j'ai tendance à dire que, en fait, c'est l'ensemble de la Guadeloupe et de son archipel qui est concerné, parce que les gens qui vont être évacués de la région du Sud-Bastère devront être accueillis à d'autres endroits de la Guadeloupe, donc au nord, donc au-delà de Bouillante, au-delà de Guayave et dans les îles voisines, pourquoi pas. Et il faut que l'accueil puisse se faire correctement, pas du tout comme en 76, quand il y a eu des soucis des maux d'oiseaux et des choses comme ça. Donc en fait, c'est l'ensemble de la Guadeloupe qui est concerné par le risque volcanique. Le Sud-Bastère de manière vitale, donc on joue sa vie si on y reste, donc il faut évacuer. Mais en même temps, le reste des populations, les gens évacués, ben il faut les loger quelque part, il faut les accueillir quelque part. Et ça concerne l'ensemble, la totalité des communes.
Très bien. Alors, il existe différents types d'éruptions. Est-ce qu'on peut les découvrir avec vous?
Alors, il y a deux grandes familles de volcanisme. Le volcanisme effusif et le volcanisme explosif. Et chaque volcanisme a des manifestations particulières. Chaque volcan appartenant à une de ces deux grandes familles peut se manifester de manière particulière. Alors, dans ce qu'on appelle les volcans effusifs, on a plusieurs types d'éruptions. Alors, je parle d'éruptions. Attention, je ne parle pas de volcans. On a des éruptions qu'on appelle des éruptions hawaïennes. qui sont des éruptions de coulées de lave, c'est ce qu'on a à La Réunion assez, de manière classique, hein, de coulées de lave rouge très liquide qui dévalent les pentes selon à plus ou moins grande vitesse selon la pente, selon la pente de la montagne et selon la fluidité de la lave. On a des éruptions de type strombolienne qui sont un peu plus explosives, hein, c'est ce qu'on appelle donc des éruptions de volcan effusif, c'est-à-dire effusif, ça veut dire que la lave est liquide, elle est très chaude à 1200 degrés et elle est très fluide, donc elle coule facilement, d'accord. Ce ne sont pas des volcans intrinsèquement dangereux. Bien entendu, il ne s'agit pas de se trouver sur le trajet d'une coulée de lave.
Ah, c'est clair.
Mais globalement, ce ne sont pas des volcans dangereux, ce sont les volcans les plus souvent d'éruption sur la planète. Ils sont, les volcans fusifs, c'est des volcans qui sont en éruption très très souvent, c'est pour ça qu'on les connaît bien. Et c'est pour ça qu'on s'imagine toujours que des volcans ont des coulées de lave rouge, etc., des voilà. cratères, des choses comme ça, alors que c'est pas, l'ensemble des volcans, ce n'est pas ça. Et en fait, par opposition, il y a les volcans explosifs qui, eux, forment des dômes, en fait, comme la Soufrière de Guadeloupe, comme Montserrat, comme la Montagne Pelée de Martinique, comme les volcans du Japon, comme les volcans d'Indonésie, comme les volcans de la Cordillère des Andes et d'Amérique centrale, etc. Les volcans de l'Alaska, les volcans des îles Aléoutiennes, du Kamchatka, du Japon, enfin bon, tout cet arc, ces arcs volcaniques. Ces volcans explosifs, eux, ils sont pas très souvent en éruption. Je disais tout à l'heure, une à deux éruptions par siècle. Par millénaire. Une à deux éruptions par millénaire, globalement tous les cinq siècles. C'est un avantage. En même temps, ils sont extrêmement dangereux parce que potentiellement, ils explosent. Et leur lave n'est pas liquide, n'est pas fluide. Elle est plutôt pâteuse, visqueuse. C'est comme de la pâte à modeler. Mm-hmm. Et la pâte à modeler, vous voyez, c'est mou, mais ça coule pas. Ça s'épanche comme du mastic, comme de la pâte dentifrice très très épaisse, mais c'est pas quelque chose qui est fluide.
Mais en quoi c'est dangereux?
Dangereux, oui. Parce que justement c'est épais, c'est visqueux, et comme c'est gorgé de gaz, il y a des gaz qui sont sous pression à l'intérieur, alors des gaz qui peuvent atteindre, alors dans le manteau, on a des pressions de l'ordre de 35 000 bars.
C'est-à-dire?
On a des pressions qui atteignent 35 000 bars. 200 bars, c'est déjà une bonne explosion. Mm-hmm. C'est une grosse bombe. Alors 35 000 bars, je ne sais pas si vous imaginez les pressions que ça amène. Et le bar, c'est, on va dire, c'est la pression atmosphérique, c'est 1013 hectopascales. On va dire ça comme ça pour simplifier. Et c'est la pression atmosphérique. Donc lorsque vous avez un système qui arrive sous pression, comprimé, en surface, et qui se retrouve rapidement mis à l'air libre, plus ou moins rapidement, il va se décomprimer violemment en explosant. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des volcans explosifs. Et c'est pour ça qu'ils explosent. Et lorsqu'ils explosent, bien entendu, c'est de la lave qui se propage. C'est de la lave qui peut avoir à se propager. Ça fabrique ce qu'on appelle des nuées ardentes, des avalanches pyroclastiques. Et ces avalanches pyroclastiques, c'est de la lave, hein. C'est de la lave pulvérisée qui se propage à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure dans l'espace, dans l'atmosphère. Alors ça peut être vertical, et on appelle ça l'éruption plinienne. Une explosion verticale qui peut monter jusqu'à 10 000, 12 000, 15 000, voire 40 000 mètres, donc 40 kilomètres d'altitude. Alors c'est des choses cataclysmales parce que ces matériaux qui sont projetés en l'air, mais ils retombent tout autour. Et en plus, il s'agit de matériaux incandescents, de blocs de lave pâteux, visqueux, effectivement, de toutes les tailles. Ça peut être la taille d'un immeuble. Et ça retombe forcément au sol, donc, et tout autour du volcan. Donc c'est très dangereux, c'est cataclysmal. Et c'est ce qu'on appelle l'éruption plinienne des volcans explosifs. Et vous avez également, dans les volcans explosifs, ce qu'on appelle les éruptions latérales dirigées. L'éruption latérale dirigée, c'est qu'au lieu que l'explosion se fasse verticalement, ben ça part à l'horizontale dans une direction donnée. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé à la montagne Pelée en 1902. Vous avez eu ce qu'on appelle une éruption péléenne, c'est-à-dire que le magma est arrivé tout seul en surface, il s'est décomprimé, et il explosait violemment et en faisant un jet, une projection horizontalement dans une direction donnée. Ça a été le 8 mai 1902 en direction du Prêcheur et de Saint-Pierre, et ça a été le 30 août 1902 en direction de Morne Rouge. Mm-hmm. Et quand ça va dans une direction, ça va pas dans l'autre, et donc les gens qui sont dans l'autre direction sont à l'abri, mais ça on le sait pas à l'avance.
Ah, mais justement, c'est la question que j'allais poser. Voilà. Est-ce qu'on peut, par rapport à l'habitude, hein, d'un volcan, est-ce qu'on peut prévoir déjà dans quelle direction?
Alors, l'avantage des volcans explosifs, qu'ils fassent des éruptions pliniennes ou péléennes, oui, on prévoit pas les éruptions. On ne sait pas à quel moment ils vont faire une éruption. Par contre, ils préviennent longtemps à l'avance pour dire, attention, je suis en situation de pouvoir faire une éruption. C'est-à-dire qu'il y a des précurseurs, ça peut être plusieurs années avant. Hein. Pour 1902, en montagne Pelée, c'était 20 ans avant les précurseurs. Mmh. La montagne Pelée n'a pas explosé de manière brutale, sans prévenir.
Et chez nous, en Guadeloupe, à Soufrière,
c'est pareil. Ça peut être cet ordre de grandeur. En étant pessimiste, on se dit qu'on a 2 ans de préavis.
D'accord.
En étant pessimiste.
Ok.
Alors, il n'est pas question que la soufrière explose ce soir, ni en 2017, ni en 2018. Pour l'instant, nous sommes tranquilles pour 2 ans.
Mm-hmm.
Il faudrait que ça commence aujourd'hui, que les précurseurs commencent à se faire voir aujourd'hui, pour que dans les cas les plus graves, qu'on puisse avoir des éruptions graves d'ici à 2 ans. Donc, globalement, ce n'est pas le cas. Donc, on a ce qu'on appelle une prévision glissante sur 2 ans. De 2 ans, 2 ans, ben, enfin, ça glisse tout au long de l'année, et avec un préavis de 2 ans.
Oui, pardon, allez-y.
Oui, donc c'est l'avantage de ces volcans qui se passent souvent en éruption, mais qui sont dangereux, mais qui en même temps préviennent longtemps avant.
Mm-hmm.
Et alors on sait que le volcan est capable de faire une éruption grâce à ses précurseurs. On arrive à juger d'une possibilité qu'il y ait une éruption à un moment donné, qu'il y ait une énergie telle qu'on puisse avoir une éruption, mais on ne connaîtra jamais la date et l'heure de l'éruption.
Mm-hmm.
Donc une fois qu'on est en situation, qu'on a un volcan qui s'est chargé, qui s'est mis sous tension, qui est capable d'exploser, qui est capable de faire des éruptions, les populations qui sont sous son feu, on va dire, qui sont menacées, bon, doivent être évacuées. Il n'y a pas tellement d'autres solutions, et pour éviter tout problème.
Mm-hmm. Concernant la soufrière, est-ce qu'on a des dates concernant les derniers signes précurseurs qu'on a eus?
Ah, les précurseurs, ben, il n'y a pas de précurseurs actuellement à la soufrière. La dernière éruption phréatique, alors il y a plusieurs types d'éruptions. Nous avons des volcans ici qui sont en zone tropicale humide. Il pleut, je crois qu'il y a même de l'orage là. Il pleut, et comme il pleut beaucoup en montagne, nous sommes dans les records du monde de pluie, nous avons beaucoup d'eau qui tombe sur la soufrière. Et cette eau, elle ruisselle quand elle tombe au sol, elle ruisselle pour former des ravines et plus loin des rivières, mais elle s'infiltre aussi dans le sol. Et en fait, la soufrière, c'est une éponge qui est gorgée d'eau. C'est comme une éponge gorgée d'eau dans sa partie superficielle. Dans toute sa masse, la masse qu'on voit visuellement au-dessus de Saint-Claude.
Mmh.
Et cette eau, elle est stockée dans le massif et elle sort sous forme de sources qui vous donnent les rivières. Les sources du Carbet, les sources du Galion, les sources de la rivière Saint-Louis qui vous donnent la rivière des Pères plus loin, etc. Les sources de la rivière Noire, la ravine Marchand, etc. Donc c'est nos rivières, c'est l'origine de notre eau. D'accord.
Mm-hmm.
Et l'Ocado, par exemple, qui est une source d'eau que l'on utilise pour alimenter la Guadeloupe, c'est une source de la soufrière. Donc ça vient des eaux météorites, des eaux de pluie. Mais cette eau qui est stockée dans le volcan, il s'agit d'un volcan actif, il y a quand même une chambre magmatique en profondeur.
Oui.
Cette chambre magmatique est à 800 degrés, c'est un magma donc peu fluide, très, tout à fait épais, tout à fait visqueux, se situe à peu près aux alentours de 5 à 10 km sous le niveau de la mer. D'accord ? Donc en profondeur, sous le volcan. Et cette masse de roches chaudes chauffe l'ensemble du massif par en dessous,
mm-hmm.
comme une casserole d'eau sur le feu. Et en fait, l'eau qui est en surface peut être chauffée par des conduits de chaleur, les roches propagent de la chaleur, et cette eau qui est incluse dans le volcan est chauffée. Et elle donne des sources thermales. On appelle les fameuses sources chaudes du Carbet, les sources chaudes de Belgeon, mm-hmm. les bains chauds du Matouba. Toutes ces eaux à température, au-delà de la température ambiante, on appelle ça des eaux thermales. Ce sont des eaux qui sont réchauffées par le magma profond et qui ressortent sous forme de résurgence de sources, avec plus ou moins des propriétés type avec des sels minéraux liés au magma qui se dissolvent dedans,
mm-hmm.
du soufre, des choses comme ça. Mais cette eau aussi, elle peut être surchauffée. Et elle vous donne des fumerolles, elle vous donne de la vapeur d'eau comme une casserole sur le feu, qui se met à bouillir. Et vous avez cette espèce de petite fumée qu'on appelle de la vapeur d'eau. C'est pas de la fumée c'est des éléments solides, là c'est des gaz. Donc vous avez cette eau qui s'appelle donc de la vapeur d'eau, qui constitue les fumerolles au-dessus du volcan et qui s'échappe à travers les fissures du volcan, accompagnée des gaz issus du magma profond. Donc mmh. l'H2S, les gaz soufrés, l'H2S, le gaz carbonique, le monoxyde de carbone, le méthane, etc. Tous ces gaz-là viennent du sol et du magma. Et c'est pour ça qu'on a des odeurs de soufre dans ces fumerolles.
Exact.
Et donc, les éruptions phréatiques sont amenées parce qu'il y a une surpression liée à cette eau. C'est-à-dire que vous avez une cocotte minute qui est fermée, vous bloquez le petit tourniquet, le petit sifflet, et vous avez une surpression qui s'installe dans la cocotte minute. Et donc, toutes les fissures du volcan, parce qu'il n'y a pas de cratère au sommet de la soufrière, il y a des trous, il y a des gouffres, il y a des fissures, il y a des failles. Et ces failles sont colmatées par l'érosion, par tout ce qui peut tomber dedans, les éboulements, les roches. Et ces failles sont bouchées. Et certaines sont débouchées à des fissures, donc qui laissent passer des fumerolles. Mais globalement, si la pression de vapeur sous ces fissures est telle que la sortie des fumoirs ne peut pas se faire de manière facile, mais le système va exploser. Donc le bouchon va exploser et va partir en l'air. C'est ce qu'on appelle l'éruption phréatique.
Très bien.
Donc c'est le moteur, c'est de la vapeur d'eau qui est sous pression qui va faire exploser le volcan. C'est ce qu'on a eu en 76-77.
Très bien.
Ça fait partie des précurseurs magmatiques. Mm-hmm. Parce que avant que le magma arrive en surface, il faut bien qu'il volatilise l'eau qui est au-dessus.
Ouais.
C'est pour ça que toute éruption phréatique dans nos régions, dans nos contrées tropicales humides, sont les précurseurs souvent des éruptions magmatiques.
Mm-hmm.
Donc ça fait partie des précurseurs, ça fait partie des éléments de risque que l'on a au niveau du volcan, parce que ça projette quand même des blocs de pierre en l'air de la taille d'une case. Les plus gros morceaux, c'est des blocs de plusieurs mètres de diamètre, mm-hmm. qui sont projetés en l'air. Et même un œuf de poule projeté en l'air, ça, quand ça retombe, ça peut tuer quelqu'un, ça mm-hmm. peut faire mal. Donc ça reste dangereux quand même, ces éruptions phréatiques.
Mais justement, par rapport à ça, monsieur Anténor Abazac, les communes qui sont vulnérables par rapport à ce volcan-là, qu'en est-il ? Est-ce qu'elles sont surveillées d'une façon constante ?
Les communes menacées sont toutes celles qui sont à moins de 15 km du volcan.
Mais
à moins de 15 km du volcan, qui n'ont pas de relief, qui peuvent servir de barrage à une éventuelle éruption.
Oui.
Donc c'est toutes les communes du sud Basse-Terre.
On peut donner les noms, pardon.
Ah ben on va nommer les noms. C'est ceux qui étaient évacués en 76 dans le cas d'une éruption de la Soufrière.
Tout à fait, tout à fait.
Attention, il ne s'agit pas d'éruption d'un éventuel autre volcan qui pourrait se créer plus au nord.
Mm-hmm.
Alors dans le cas de l'éruption actuelle Soufrière, c'est pour éruption très grave. Les communes concernées, c'est Vieux Habitants, c'est Baïf, c'est Basse-Terre, bien sûr c'est Saint-Claude, c'est Gourbert, c'est Vieux-Fort, c'est Trois-Rivières et c'est Capesterre-Belleau.
Mm-hmm.
D'accord ?
Oui.
C'est le triangle sud de la Basse-Terre qui est concerné pour une éruption à la Soufrière. Si c'est une éruption d'un volcan qui sort vers le nord, vers le Carmichael par exemple, attention, à ce moment-là, Goyave pourrait être concerné éventuellement, et aussi éventuellement Bouillante.
Parler justement de cette création de ce volcan sur le nord, on n'a pas cette information. Non,
mais ça fait partie de la vie de la nature, la vie des volcans. C'est ce qui s'est passé à Montserrat, je répète.
Mm-hmm. Oui, tout à fait.
En 1995, le 18 juillet 1995, dans les éruptions phréatiques, pendant 3 mois à Montserrat, jusqu'au mois de fin octobre, début novembre, où on a constaté par hasard, je dis bien par hasard, par des guides qu'on appelle les Forest Rangers à Montserrat, qui sont des gens un peu ONF, un peu scout, enfin des forestiers, quoi.
D'accord.
Qui sont partis dans la montagne voir ce qui se passait sur le volcan suite aux éruptions phréatiques.
Oui.
Et qui ont constaté que le sol à côté du volcan se déformait, se boursouflait, il gonflait.
Mm-hmm.
Ça veut dire qu'il y avait du magma qui montait par en dessous et qui poussait le sol et donc c'était la naissance d'un nouveau volcan qui s'est créé de manière contigu, vraiment collé à l'ancien dôme qu'on appelait Castle Peak à l'époque.
Mm-hmm.
Et ce dôme a pris la place de Castle Peak, ce dôme a explosé à plusieurs reprises et a broyé Castle Peak qui est parti, qui n'existe plus maintenant, et il a pris sa place. Et en fait, on a eu un nouveau volcan qui est sorti dans une caldeira qu'on appelle English Crater à Montserrat.
D'accord.
Donc la Soufrière est née comme ça, en 1530.
Mm-hmm.
Et rien n'exclut. Évidemment, ça se met pas en place du jour au lendemain. Mm-hmm. J'ai dit qu'il y a toujours des précurseurs.
Tout à fait.
Plusieurs années avant. Mais rien n'exclut qu'on puisse avoir une nouvelle sortie de dôme dans la région du sommet de la zone de la Soufrière.
Bon, là, on spécule, mais on n'a pas de vérification, on n'a rien du tout.
Ah non, mais ça prévient. Donc le massif est surveillé. Alors l'observatoire qui existe et qui est compétent et qui a équipé pour ça, il ne surveille pas que le volcan de la Soufrière.
Ah d'accord.
Il surveille la totalité du massif, c'est-à-dire la région que je vous ai indiquée, c'est-à-dire Vieux Habitants, les Sans-Touchés, Capesterre-Belleau, Trois-Rivières, Gourbert, Saint-Claude, Basse-Terre-Baïf. Et il surveille la totalité de ce massif-là. Et toute activité dans ce massif-là, elle est détectable par les réseaux d'instruments qui sont placés dans cette zone-là.
D'accord. Est-ce qu'on peut justement, pour toutes ces personnes qui aiment bien ce genre d'informations, qu'est-ce que vous employez, hein, qu'est-ce que l'équipe emploie comme objet, comme matériel de surveillance?
Alors, il y a 3 grandes disciplines dans la surveillance de volcans. Il y a ce qu'on appelle, on va dire, la routine. Donc, 3 grandes disciplines de routine. Je ne parle pas des disciplines de recherche, qui sont des disciplines annexes et qui peuvent devenir de la routine par la suite quand elles sont validées. Bon, on fait des essais, on fait des tests, et si un système montre que, avec ça, on peut faire de la prévision d'éruptions volcaniques, ça rentre dans une routine par la suite. Alors, les choses qui sont routinières de tous les jours, il y a 3 grandes disciplines. C'est la géophysique, la géochimie et la géologie. La géophysique, c'est toutes les mesures physiques qu'on peut faire sur un volcan. C'est des mesures de température, des fumerolles, c'est des enregistrements de tremblements de terre. C'est des enregistrements de déformation du sol, avec le GPS par exemple. ou avec des extensions, mettre en mesure les fissures, l'ouverture des fissures, et on regarde si les fissures varient en ouverture ou en fermeture.
Mais ça, c'est sur un logiciel ou c'est sur le terrain?
Ah non, c'est des appareils qui sont placés sur le terrain.
Ah, très bien.
Qui peuvent être télémétrés. Mmh. Certains de ces instruments-là sont télémétrés, c'est-à-dire que les informations arrivent par radio, par voie radio, à l'observatoire, soit par satellite, soit par voie radio classique, mais satellite, ça reste toujours de la radio. Ça peut être des informations que l'on va mesurer sur le terrain. Par exemple, les fissures, l'ouverture d'une fissure, on va avec une espèce de décamètre, un mètre à ruban. Mais attention, quand on déplie le mètre à ruban, c'est pas le mètre à ruban seulement du plombier ou du menuisier ou du maçon, hein. C'est un mètre à ruban qu'on installe entre deux pitons. Et on fait la mesure au centième de millimètre près, à tension du ruban constante. Mmh. Donc en fait, c'est un décamètre, dynamomètre, c'est-à-dire qu'on met le ruban en tension, et chaque fois qu'on fait la mesure, on utilise la même tension du ruban pour faire la mesure. Donc on tire sur le ruban, entre les deux points qu'on veut mesurer, on lui met une tension constante, et on fait la mesure. Et avec ça, on atteint le centième de millimètre, hein, de précision. D'accord ? Sur une fissure. Ou dans des gouffres, les ouvertures de trous. Par exemple, si le volcan se gonfle, ben les trous ont tendance à devenir de plus en plus grands, de plus en plus béants. Donc c'est comme ça qu'on mesure les déformations. On utilise bien entendu le GPS aussi. Mm-hmm. Le GPS, qui est ce qu'on appelle le GPS différentiel. Le GPS globalement, c'est quelques mètres de précision. Mais comme il nous faut des millimètres à la soufrière, on a des points de référence qui nous servent des points fixes, où on a placé une station GPS, mm-hmm. qui mesure en permanence la position d'un point fixe, qui n'est pas le volcan. Et on a les mêmes GPS sur le volcan, d'autres appareils sur le volcan, qui communiquent entre eux et qui mesurent en permanence la position du volcan, d'un point sur le volcan, et ce point-là est comparé en permanence avec le point fixe.
Très bien.
Et si jamais il y a une variation entre les deux, alors les variations terrestres, hein, ou satellitaires sont créées, le GPS ça fonctionne avec des satellites, hein, sont annulées puisqu'il s'agit de deux mêmes mesures, mais les variations propres au volcan, elles, sont mises en évidence. Mm-hmm. Et on mesure comme ça, avec ce qu'on appelle le GPS différentiel, des variations de l'ordre de 3-4 millimètres.
Mm-hmm. Mais cette technicité, elle est toute récente. Avant, vous faisiez comment, vous?
Oui, c'est relativement récent. On a toujours fait de la sismologie.
Ah.
La sismologie, c'est en géophysique, c'est la sismologie qui est la science mère de tout ça. Mm-hmm. L'étude des tremblements de terre provoqués par les mouvements de magma sous un volcan, ou les surpressions magmatiques ou phréatiques, hein, liées à l'eau, sous un volcan. C'est la sismologie volcanique. Ça existe depuis très longtemps et ça a toujours existé. Et par contre, évidemment, les appareils se modernisent. De plus en plus, bon, les sismomètres. Alors, la sismologie, je prends un exemple. Les premiers sismographes qui ont été inventés, c'est 130 ans avant Jésus-Christ. Il y a 130 ans avant Jésus-Christ, ce sont les Chinois qui ont inventé ce qu'on appelle les sismoscopes, qui étaient des appareils qui détectaient les tremblements de terre tectoniques à l'époque. D'accord? Et donc la sismologie, c'est une science qui est très vieille, en fait, quelque part. Elle est devenue très moderne, elle s'est vraiment modernisée au 19e et 20e siècle. Et puis maintenant, avec l'informatique, l'électronique, c'est devenu quelque chose de formidable. Mais c'est une science qui est très à la pointe. On mesure les moindres vibrations du sol, que ce soit liées au déplacement des plaques tectoniques ou aux remontées de magma. Et imaginez-vous qu'en Guadeloupe, les appareils qui sont sur la soufrière enregistrent le matériel qui se produit au Japon.
D'accord. Donc en fait, ils sont pas seulement, comme vous le disiez, hein, ils sont pas seulement sur notre espace, mais c'est vraiment tout le monde est concerné.
Le globe terrestre est truffé d'instruments de ce genre-là, okay. Et c'est comme ça qu'on sait déterminer un tremblement de terre à distance.
Hein,
il y a des réseaux mondiaux qui permettent de savoir que dans telle et telle région, même si elle n'est pas habitée, mm-hmm. ben il y a eu un tremblement de terre avec telle magnitude à tel endroit. Mm-hmm. Et ça, on sait le faire.
Voilà.
Et alors, plus il est fort, évidemment, plus ça s'enregistre loin. Mm-hmm. D'accord. Mm-hmm. Alors pour un volcan, donc on a la sismologie. Donc la géophysique, la sismologie, l'extensométrie, les mesures de température dans des forages, dans le sous-sol. On a aussi comme technique de surveillance ce qu'on appelle la géochimie. La géochimie, c'est toutes les études d'analyse des gaz, des fumerolles et des sources thermales du volcan. Parce que dans les fumerolles, il y a des gaz du magma. Dans les sources thermales, il y a des sels minéraux dissous. Issus du magma, et la variation de ces composantes chimiques donne un état de santé du volcan. D'accord?
D'accord.
Donc on sait que s'il y en a, par exemple, du chlore qui remonte, attention, le magma, le chlore est produit par le magma, le magma est peut-être en train de monter. Si on a du SO2, c'est qu'on a aussi du magma qui peut remonter, ainsi de suite. Donc il y a des spécialistes de ça. Moi, je suis pas géochimiste, donc je peux pas vous donner trop d'éléments. Et puis il y a aussi la géologie, la troisième discipline pour la surveillance d'un volcan. La géologie, en fait, c'est l'étude du volcan, c'est l'étude des roches, c'est l'étude de l'histoire du volcan, c'est ce que le volcan a déjà fait, c'est son histoire, quand est-ce qu'il s'est créé, qu'est-ce qu'il a eu comme petite éruption auparavant, quelle est la nature des matériaux qui sont produits, etc., etc. Et tout ça, ça fonctionne ensemble, c'est un tout. Mm-hmm. Il faut que tous les paramètres étudiés
en géophysique, géochimie et géologie,
géochimie, géophysique et géologie,
voilà,
puissent correspondre et converger vers un éventuel réveil. C'est-à-dire que si un jour il y a, par exemple, et ça arrive régulièrement, on a un essaim, on appelle un essaim, c'est-à-dire un amas, une quantité plus impressionnante, plus importante de tremblements de terre sous le volcan.
Oui.
Ça ne veut pas dire que le volcan se réveille. Mmh. Il faut que ces phénomènes-là soient corrélés avec d'autres phénomènes, d'autres observations.
Très bien.
Donc ça fait partie, il y a énormément de techniques qui permettent de voir, attention, que le volcan est en train de se réveiller.
Bon, c'est
rare. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait. Et la Guadeloupe, l'observatoire de Guadeloupe, l'observatoire de Martinique aussi, est équipé pour faire ce genre de choses sur nos volcans, nous. Mmh. Et à La Réunion également.
Mmh. Qui dit information dit aussi prévention. On parle de risque que volcanique. Est-ce qu'on peut faire maintenant un point sur la prévention qu'on peut mettre en place? Les auditeurs nous écoutent, se disent bon, d'accord, c'est important tout ça. Quelle prévention mettre en place?
Bon, la prévention déjà à mettre en place, c'est savoir qu'on habite dans une région volcanique active. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, on peut avoir à devoir quitter cette région pour se mettre à l'abri, qu'il se passe quelque chose ou qu'il se passe rien. Parce que je disais tout à l'heure, on n'a pas la date de l'éruption, donc il faut pouvoir partir préventivement, parce que ce type de volcan, quand il explose, il faut pas être là quand il explose, parce que les nuées ardentes, ça se déplace à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure, donc on n'a plus le temps de partir. Si on est sur le trajet d'une nuée ardente, on est grillé instantanément sur place. Donc c'est le des dangers de ces volcans là c'est pour ça que les volcans explosifs sont des volcans potentiellement dangereux. Il faut pas être là lorsqu'ils se manifestent, lorsqu'il y a des éruptions. Il faut pas être concernés par les éruptions. Donc toutes les populations menacées par des éventuelles éruptions, qu'elles soient phréatiques, parce que c'est quand même dangereux de recevoir des cailloux sur la tête ou sur sa maison, ou qu'elles soient magmatiques, alors là ça peut être cataclysmal, il faut pas que les populations concernées soient, il faut qu'elles ne soient pas là. D'accord? Donc il y a ce qu'on appelle il faudrait avoir une évacuation préventive. Mais avant ça, il y a des choses à savoir. Savoir vivre au pied d'un volcan qui est actif. Alors, le volcan se manifeste de plusieurs manières. Déjà, bon, il va se manifester de manière souterraine. Donc, l'observatoire va observer ça. Ensuite, il va commencer à se manifester toujours de manière souterraine, mais les personnes vivant autour du volcan vont percevoir ces phénomènes-là aussi. Ça veut dire que les phénomènes sont devenus plus importants. Mm-hmm. Ils ne sont pas simplement détectés par les appareils, mais aussi ils sont détectés par les personnes. Exemple, les tremblements de terre qui sont de plus en plus forts et qui vont être ressentis par les personnes. Et à partir de là, il faut que les personnes ne s'affolent pas. Il faut qu'elles sachent sur quel pied danser. Il faut qu'elles sachent qu'est-ce qu'elles ont à faire, comment elles s'organisent en cas de. Alors, je disais que dans nos régions tropicales humides, les éruptions vont commencer à se manifester par des éruptions phréatiques. Une éruption phréatique, c'est pas cataclysmal. Mais ça peut être dangereux. Et c'est dangereux, notamment, plus on est proche du volcan, plus c'est dangereux. Donc, c'est vrai que préventivement parlant, les gens qui habitent le plus près du volcan, alors je vais citer des noms, hein, des régions, pour la Guadeloupe, c'est Matouba, Papaye, à Saint-Claude, les hauteurs de Saint-Claude, Matouba et Papaye, et pour les hauteurs de Gourbert, c'est le plateau du Palmiste. Ce sont les gens qui habitent à moins de 2-3 kilomètres du volcan. D'accord? Ces gens-là, il faut qu'ils sachent que si jamais il y a un risque d'éruption phréatique, et qu'ils peuvent prendre des cailloux sur la tête, il faut qu'ils évacuent la région, même de manière provisoire, avant que ça se produise, si possible.
Très bien.
On peut avoir évacué sous pression, mais l'idéal, c'est d'évacuer avant que ça se produise.
Mais par rapport à ça, la maison même, c'est différentes communes environnantes, hein, et on les a citées tout à l'heure. Est-ce qu'à la maison eux-mêmes, ils ne devraient pas aussi avoir un kit?
Oui, il faut toujours avoir un kit de survie. Ce qu'on appelle le kit de survie, c'est valable pour les cyclones. Nous sommes en saison cyclonique, donc il faut l'avoir.
Tout à fait.
Donc avoir des provisions, des conserves, des choses qui se conservent en dehors de toute congélation, toute réfrigération. Donc des choses, des boîtes de conserve, des salaisons, des choses qui se consomment aussi avec le moins d'eau possible. Donc pas forcément des salaisons, parce qu'il faut dessaler. Bon, il faut faire attention à tout ça. Il faut avoir de l'eau en réserve. Mais en même temps, dans une zone volcanique, comme ça prévient, on a le temps de constituer ces réserves-là. Le kit de survie, il faut le constituer pour les cyclones. Nous sommes en saison cyclonique, ça prévient, mais il faut le faire maintenant. Mais pour le tremblement de terre, le kit de survie est valable également. Le tremblement de terre ne prévenant pas, il faut quand même avoir un kit de survie, donc en permanence chez soi. Donc dans les régions qui ont volcaniques, le kit de survie peut être nécessaire, mais il faut surtout apprendre à gérer, par exemple, les premières projections de poussière volcanique. On appelle les cendres volcaniques. Quand il y a une éruption phréatique, ça projette des matériaux du volcan en l'air. Les matériaux qui peuvent être des cailloux, mais qui peuvent être des petits grains aussi fins que de la farine, qui sont les constituants du dôme volcanique. C'est la roche du volcan, qui est broyée, qui devient comme du sable de plage. C'est projeté en l'air et ça retombe. C'est ce qu'on appelle la cendre volcanique ou la poussière volcanique. C'est parfaitement froid dans le cas d'une éruption phréatique, mais ça retombe sur les toitures des maisons. Il faut simplement éviter que ça s'accumule sur les toitures, parce que c'est de la roche quand même, même si c'est en poudre. C'est de la roche, et quand il pleut et que c'est gorgé d'eau, ça fait comme du ciment qui a pris de l'eau, et ça devient, et ça prend du poids, et ça peut, avec le poids, faire effondrer les toitures des maisons, surtout les dalles plates en béton, les dalles plates qui n'ont pas de pente, les toitures plates qui n'ont pas de pente, les poussières s'accumulent par-dessus, 5-10 cm d'épaisseur de poussière volcanique, ça peut faire ça peut peser des tonnes, et ça écroule la maison. Donc ça, c'est première prévention. En matière, quand on est dans une zone où il y a des projections de poussière volcanique, on peut encore vivre, y rester. Il faut pouvoir laver ou évacuer les poussières de son toit. À coup de pelle, à coup de tuyau d'arrosage, etc. Donc il faut de l'eau aussi pour faire ça, etc. Ça, c'est une première prévention. Il faut aussi se protéger les muqueuses. C'est comme les sables, les poussières du Sahara. Hein, les temps blancs, les temps gris qu'on a là, avec les poussières solide qui arrive du désert, mais les poussières volcaniques, c'est pareil. Il faut pouvoir se mettre un mouchoir sur le nez et ne pas respirer de manière directe sur ça, parce que ça attaque les bronches, ça donne des crises d'asthme.
Donc on fait tout ça dans le kit de survie, quoi.
Oui,
en fait,
il faut prévoir des mouchoirs, il faut prévoir des masques à poussière éventuellement, tout ça dans le kit de survie, prévoir de l'eau, parce que les poussières qui tombent au sol contaminent les captages d'eau. Parce que ces poussières volcaniques, ce sont des métaux lourds, c'est des matériaux, c'est des sublimés chimiques qui sont des poisons pour l'homme. Et donc ça empoisonne les sources d'eau, et ces poussières-là, elles contaminent l'eau. Donc il faut avoir des eaux, il faut pouvoir consommer de l'eau qui soit potable. Donc il faut évidemment protéger ses réserves d'eau, avoir des réserves d'eau. Si on a des citernes, il ne faut pas que l'eau des toitures avec des poussières volcaniques aille dans les citernes. Donc il faut pouvoir isoler les citernes quand il y a un réveil volcanique.
Alors je viens d'avoir une auditrice en ligne qui me posait cette question. Quelque part, ça peut être effrayant pour les personnes qui habitent juste à côté des villes environnantes. Est-ce que ceci voudrait dire qu'on devrait prévoir éventuellement, bien sûr, la location ou la construction d'une maison en grande terre?
Bon, ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun a les moyens qu'il a et fait ce qu'il veut avec son argent, ses possibilités et prévoir la location d'une grande terre. Le problème, c'est que si la soufrière se réveille dans 30 ans, vous allez prévoir une location sur 30 ans qui va rester vide. Donc, le problème, c'est que il n'y a pas d'affolement à avoir, il n'y a pas à prévoir un point de chute. Enfin, oui, si vous avez de la famille en grande terre, c'est mieux, mais si vous voulez acheter quelque chose et que vous voulez, qui va vous servir d'abri, il faut que cette chose-là soit disponible. Mais cette chose-là peut être disponible. Vous pouvez en avoir besoin d'ici 2 ans, comme d'ici 30 ou 50 ans, ou après votre décès. Donc, je peux pas demander aux gens de prévoir une maison ou un poste de secours, entre
c'est
guillemets.
Normal.
On peut pas dire ça aux gens. Les gens font ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie de faire. Je sais pas si c'est vraiment conseillé de le faire. Parce que quelque part, il y a aussi des autorités, il y a aussi des gens qui gèrent les populations, et ces gens-là vont devoir effectivement s'organiser pour la prise en charge des populations
évacuées. Tout à fait. Mais justement, par rapport à cette prise en charge, quel protocole qui est prévu pour ces personnes-là?
Déjà, il faut regarder ce qui s'est passé en 76-77.
Oui, tout à fait.
Chaque commune menacée de la Guadeloupe avait un point d'accueil par une autre commune hors de la zone menacée, donc Grande Terre et Nord Guadeloupe, Nord Basse-Terre. Et donc c'était les maires qui sont responsables de leur population au niveau sécurité qui s'étaient accordés avec évidemment la sécurité civile, la préfecture et tout ça, le gouvernement, pour pouvoir s'organiser pour avoir des points de chute. Par exemple, je crois, si je me rappelle bien, la ville de Saint-Claude, la commune de Saint-Claude était accueillie à Bémao, par exemple. Mais une commune peut être accueillie sur plusieurs communes. Ça dépend de la population, ça dépend des disponibilités de la commune d'accueil. Et donc, c'est de l'organisation qu'il faut prévoir à l'avance. Alors, c'est vrai que pour l'instant, c'est à revoir. Ce qu'on a fait en 76, c'est obsolète certainement. C'est à réveiller, c'est à réactualiser. Mais c'est le travail des autorités. C'est le fameux plan Orsec volcanique, éruption volcanique. C'est le travail des maires d'avoir des relations avec leurs homologues des régions non concernées pour avoir des points d'accueil. Et ça, c'est toute une organisation. Alors évidemment, quand le volcan... Alors pour l'instant, c'est pas à jour. Hein. C'est clair que le plan Orsec éruption volcanique n'est pas à jour. Mais il faut le mettre à jour. Et je considère qu'on a le temps de le mettre à jour parce que le volcan va nous donner le temps de le faire. En 99% de chance que le volcan nous donne le temps de le faire sur 2 ans par exemple, mais ça n'empêche pas qu'on puisse y travailler dès maintenant. Oui. Déjà, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des idées sur ce qu'on va faire. Alors, ce qu'il faut pas mettre dans des zones volcaniques, il s'agit pas de condamner Basse-Terre, Saint-Claude, Baïf, etc. Ce qu'il faut pas mettre dans des zones volcaniques, c'est ce qu'on appelle les bâtiments de classe D.
C'est-à-dire
les bâtiments dont le fonctionnement permet de veiller à la sécurité civile et au secours.
Les hôpitaux.
Alors, c'est tout ce qui est hôpitaux, tout ce qui est caserne de
aéroport,
de gendarmerie, aéroport, etc. Enfin, aéroport, imaginez-vous Paul Caraïbe à Basse-Terre. C'est clair que si Basse-Terre est évacuée, il n'y a plus d'avions gros porteurs qui arrivent en Guadeloupe. Hein. Donc, ça, c'est, il n'est pas question de mettre un aéroport type Paul Caraïbe à Basse-Terre, ça c'est clair. Bon, il y a un hôpital à Basse-Terre. C'est qu'évident que si la souffrance se réveille, il ne sera pas fonctionnel. Et les bâtiments de classe D, c'est des bâtiments qui doivent fonctionner pendant la crise. Je prends un exemple. Imaginez-vous un chirurgien en train d'opérer pendant un tremblement de terre. Un tremblement de terre qui ne prévient pas. D'accord ? Eh ben, il faut que l'opération puisse pouvoir continuer même pendant un tremblement de terre. Donc le bâtiment doit rester fonctionnel pendant la crise, pendant l'événement. Ce n'est pas le cas des autres maisons, les personnes se mettent à l'abri dans leurs maisons, dans leurs administrations, dans leurs entreprises. Mais un hôpital doit fonctionner.
Tout à fait.
Vous voyez le problème. Et les casernes de pompiers, de gendarmerie, de police, de militaires et compagnie doivent pouvoir aussi assurer leur public. Donc ces casernes-là doivent rester opérationnelles. Donc, ce qu'on appelle les bâtiments de classe D, c'est tout ce qu'il y a, les centrales d'énergie, par exemple EDF. Si EDF était à Basse-Terre, ben, il y aurait des problèmes de courant, oui, de production de courant pour la Guadeloupe.
Et pour le
réveil volcanique.
Et pour le particulier, il n'y a rien.
Alors, moi, je parle du tremblement de terre, là, mais en cas de réveil volcanique, le particulier, ben, il est prévenu plusieurs années avant, plusieurs mois avant.
Donc, c'est juste avoir son kit et.
Donc, il a le temps de s'organiser, et éventuellement de prévoir un point de chute
en grande zone
dangereuse avec sa famille, avec ses amis. Éventuellement de racheter ou de louer à ce moment-là. Mais à ce moment-là, vous savez, les pressions économiques sont telles que les prix ont augmenté. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison de chercher à le faire maintenant, parce que rien ne garantit qu'il y ait un réveil volcanique dans les prochaines années. Donc, c'est inutile d'aller dépenser de l'argent pour un truc hypothétique. Hein? Mais c'est vrai que ça peut arriver.
Voilà. Ben, on arrive quasiment à la fin, hein, monsieur Christian Anténor à Bazac. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre par rapport à cette thématique risque volcanique?
Il faut bien comprendre qu'il s'agit de volcans explosifs, donc de volcans potentiellement dangereux. Mais il faut bien comprendre qu'entre deux éruptions, une tous les 5 siècles, une majeure tous les 5 siècles en moyenne, hein, on a le temps de vivre. Donc il ne s'agit pas de condamner une région comme Basse-Terre. Je ne défends pas Basse-Terre particulièrement, je suis pointois. Je suis grand terrien. Mais moi j'essaie de rester dans le bon sens. On ne peut pas condamner une région sous prétexte qu'il y a une menace volcanique hypothétique, potentielle. Donc il faut que Basse-Terre vive. Il faut développer des industries, de l'économie, du commerce, etc. Simplement, il faut faire attention à ce qu'on appelle les bâtiments de classe D. C'est-à-dire les bâtiments qui nécessitent des productions d'énergie, secours, soins et compagnie. Il faut faire attention à l'installation de ces bâtiments-là dans une zone dangereuse, qui peut devenir dangereuse. Mais à part cela, on peut parfaitement vivre, survivre à Basse-Terre. Et peut-être, je vais dire quelque chose qui va surprendre, peut-être. Mais sachez que la région de Basse-Terre, ce qu'on appelle la Basse-Terre, que moi j'appelle la Guadeloupe proprement dite, c'est une zone qui est peut-être plus en sécurité que la Grande Terre, à cause du risque sismique. Le risque sismique, lui, ne prévient pas. Et les zones dangereuses, sismiquement parlant, sont des zones qui sont à l'est des îles de la Guadeloupe, donc à l'est des îles de la Caraïbe, des petites Antilles. Et donc la Grande Terre est concernée parce qu'elle est plus proche que, par exemple, la côte sous le vent.
Je comprends mieux maintenant.
Voilà. Ouais. Donc, en fait, le volcan prévient.
Tandis que le...
Et je dis souvent, à titre de boutade, hein, qu'il vaut mieux construire sa maison au sommet de la Soufrière, Donc, on est plus à l'abri en ayant construit sa maison au sommet de la soufrière. Mm-hmm. Parce que la soufrière va prévenir, oui. On aura le temps de partir. Mais comme on n'est pas escargot, on partira pas avec la maison. On perdra la maison, mais on gardera la vie. Mm-hmm. Par contre, construire sur la place de la Victoire, Pointe-à-Pitre, qui est une place qui m'a accueilli quand j'étais gamin et sur laquelle j'ai joué, c'est plus risqué que de mettre sa maison au sommet de la soufrière. Parce que sur la place de la Victoire, Pointe-à-Pitre, la région pointoise ou la Grande Terre, mm-hmm. sont concernés par un séisme éventuel, cataclysmal, qui lui ne préviendra pas. On ne sait pas prévoir les tremblements de terre. Et donc, vous risquez de perdre et la maison et la vie si vous n'avez pas fait les préventions, les précautions d'usage pour le tremblement de terre. Donc, quelque part, la région bassérienne, c'est une région assez saine, même s'il y a des ponts, même s'il y a des montagnes avec des risques de glissement de terrain, des choses comme ça. Mais globalement, je crois qu'il ne faut pas fonctionner en disant « Ouais, la Guadeloupe, c'est un pays dangereux, parce qu'il y a le tremblement de terre, il y a le cyclone, il y a le volcan, il y a le tsunami, et puis quoi encore ?»
On a la totale, en fait.
Alors, en fait, on a la totale en matière de risques naturels, on a la totale, et effectivement, les risques les plus méchants, les plus dangereux. Ouais. Mais attention, il y a des choses qui sont plus dangereuses que ça. Et je dis ça tout le temps, je commence toujours mes interventions en disant ça. Attention, la route tue plus que tous les risques naturels majeurs de la planète. La route en France, alors en Guadeloupe en particulier, tue beaucoup plus que tous les volcans, tous les tremblements de terre du monde, et vous rajoutez à ça tous les accidents d'avion du monde. Mm-hmm. Donc, il faut remettre les choses à leur place. Le danger, c'est pas d'habiter à Basse-Terre ni d'habiter à Pointe-à-Pitre. Le danger, c'est de prendre son véhicule tous les jours. Mm-hmm. Vous voyez ? Et on s'en rend pas compte.
C'est vrai.
Hein, même ça tue au compte-goutte, un mort, deux morts par jour, etc. À la fin, ben, globalement, si vous regardez les chiffres de l'OMS, en 2014, c'est 1 400 000 morts par an sur les routes mondiales. En France, c'est 3 400 morts par an. Mais il n'y a jamais aucun tremblement de terre, ni aucune éruption volcanique, ni aucun tsunami qui vous fait ce nombre de morts-là par an. D'accord ? Les éruptions volcaniques, je prends l'exemple des éruptions volcaniques, en 3 siècles, depuis 1700 jusqu'à 2000, on est à 300 000 morts seulement, en 3 siècles. Et effectivement, il y a eu des éruptions comme la montagne Pelée qui a fait 29 000 morts en moins de 2 minutes. On a des éruptions comme le Krakato qui a fait 36 000 morts, avec des tsunamis, etc. Mais c'est effectivement, ça fait beaucoup d'un coup et ça frappe l'esprit.
Ah oui.
Mais en même
plus
temps,
que la route.
Globalement parlant, mmh, la route tue quand même beaucoup plus.
C'est vrai.
Voilà, donc je ne sais pas si on peut conclure comme ça.
Ah,
et c'est pour dire aux
ça,
gens
ouais.
qu'en fait le danger n'est pas là où on croit. Et on ne meurt pas tous les jours de tremblement de terre ou de volcan. Par contre, on peut mourir tous les jours d'un véhicule.
C'est clair. Ben voilà une belle prise de conscience. Hein.
Voilà.
Merci beaucoup à vous, Monsieur Christian Antenora-Bazac. On se reverra prochainement pour
oui,
une.
Je pense que c'est au moins la troisième fois que je viens.
Tout
je crois.
À fait, tout à fait.
Eh ben,
la troisième.
Jamais 304.
En tout cas, merci encore d'avoir été parmi nous, un grand passionné des sciences de la terre, en volcanologie. Merci encore. Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis continuez comme ça. Il est bon de savoir qu'il y a des hommes passionnés prêts à véhiculer des informations et surtout à souligner certaines pistes en prévention. Oui, allez-y.
Mais la passion, elle est propageable que par des médias comme vous qui font le travail de la prévention. Mmh. Et je crois que c'est important que les médias de Guadeloupe, quels qu'ils soient, prennent en charge cette information du grand public qui doit être permanente. Et compte tenu des risques auxquels on est soumis, ben, il faut savoir quoi faire en cas de cyclone, en cas de tremblement de terre ou en cas d'éruption volcanique.
Ça, voilà. C'est très bien.
Et c'est, le travail des médias aussi est très important. Et merci pour ce que vous faites.
C'est un plaisir et on a hâte déjà de vous revoir.
Merci beaucoup.
À très bien.
Bonne journée.
Merci,
et
à très bientôt.
Bonsoir.
Merci encore. À bientôt. Et oui, nous avions la joie d'avoir avec nous Monsieur Christian Antenora-Bazac, un vrai passionné, vraiment très dynamique, toujours, comme on dit, à la brèche pour ces différentes informations. En tout cas, il est bon de savoir qu'il y a des hommes, il aurait pu se dire, bon, allez, je suis à la retraite, je n'ai pas à me soucier. Maintenant, jusqu'au bout, il veut vraiment véhiculer sa passion. Et on lui dit un grand merci. Merci encore à vous. Et on souhaite vous recevoir prochainement. Un grand merci aussi à Madame Varin qui est à l'écoute. Et à ses différents collaborateurs. Belle fin de journée à tous.